Messieurs, il est déjà tard. Mishnah Gimel. Donc on est toujours dans Kiddushin. On a parlé lundi du din du Eved Ivri. Donc on a expliqué comment une femme pouvait être entre guillemets acquérie. Et on a expliqué également comment dans la Mishnah Bet, comment un Eved Ivri, comment un serviteur qui est juif, comment il pouvait être acquéri. Donc on a expliqué qu'il y a plusieurs manières comment un serviteur pouvait être acquéri. Ou bien ça peut être que le serviteur, une personne a volé, il n'a pas de quoi rembourser, ça peut être un cas. L'autre cas de figure, ça peut être qu'une personne n'arrive pas à subvenir à ses moyens, donc il propose ses services à une personne, il dit est-ce que tu veux bien que je me vende en tant qu'esclave. Donc il y avait plusieurs cas. Mais tout ça, on parlait du Eved Ivri. Donc on a expliqué comment et pourquoi. Là maintenant, on va rentrer dans la catégorie du Eved Knaani. Eved Knaani, ça veut dire l'esclave, d'accord, l'esclave qui est Knaani, ça veut dire qui est non-juif. Alors, Knaani, littéralement, ça veut dire cananéen. Pourquoi on appelle cananéen? C'est qui les cananéens? Les cananéens, c'est qui? C'est quand la première fois dans la Torah qu'on voit le terme cananéen? Kenaran. Kenaan, c'est le fils de qui? Le fils de Ham. D'accord? Et qu'est-ce qui est écrit sur Ham? C'est écrit Eved Avadim Yelechav. Ham a été maudit par son père. Noir, il a dit, Eved Avadim Yelechav, tu seras esclave. Donc c'est pour ça que du coup, c'est devenu une expression, serviteur cananéen, parce que par défaut, c'est qui les serviteurs? C'est les cananéens. Les cananéens, parce que c'est les enfants de Ham. D'accord? Donc, et c'est pour ça que, de manière générale, dans la Mishnah, quand on nous parle de cananéens, de serviteurs cananéens, ça veut dire un serviteur non-juif. Il faut savoir aussi que, de manière générale, dans la Mishnah, quand on dit Eved tout court, quand on dit un serviteur tout court, sans définir si c'est un serviteur juif ou non juif, par défaut, c'est un serviteur non juif. D'accord ? Ça, c'est encore un autre point à savoir. Alors, ce serviteur, donc ce Eved Knaani, qu'on vient d'expliquer ce que c'est, ce Eved Knaani, une fois qu'il est devenu esclave, il ne sort jamais en liberté. Il ne sort plus jamais en liberté. C'est-à-dire, il n'y a plus à 6 ans, le Yovel, il n'y a pas tout ça. Il ne sort plus jamais en liberté, sauf si son maître lui écrit, lui signe, un shtar, un contrat dans lequel il dit tu peux partir. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si le maître il meurt, le serviteur passera un héritage aux enfants. C'est à vie. Comme c'est écrit, le verset il dit Veitnachaltem otam livnechem achayachem la rachet achouza. Il dit que on pourra hériter des esclaves. Attention, pas les esclaves, que les esclaves non juifs. Un esclave juif, on ne peut pas hériter. Un esclave juif, on expliquait la semaine dernière, c'est pas le cas. Ça c'est encore un autre détail qui est important de commencer à la Mishnah, de savoir que l'esclave non juif, c'est à vie, d'accord, c'est à vie, il est esclave à vie. Et ça c'est encore un détail. Un autre détail que je voulais rajouter avant de commencer la Mishnah, c'est quoi? C'est que un non juif, d'accord, un non juif donc qui s'est vendu, donc qui est devenu par défaut, il a pris le statut de Eved Knaani. Il a besoin, dès qu'il prend ce statut d'évêque Nani, il doit faire la Mila. Et il doit se tremper au Mikvé. Il doit se tremper au Mikvé pour prendre ce statut de Eved, de serviteur. Et à ce moment-là, il aura l'obligation de faire toutes les mitzvot que les femmes ont l'obligation de faire. C'est-à-dire toutes les mitzvot qui ne dépendent pas du temps. Toutes les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, il aura l'obligation de les faire. Les mitzvot qui dépendent du temps, je sais pas, par exemple, mettre les téfilines, il y a un temps pour mettre les téfilines.
Attends,
il
est juif ou
il doit pas. Il est goy. Il est goy.
Donc il met pas les téfilines.
Comme il est goy, d'accord. Alors comme il est goy, il y a un statut spécial. Dès qu'il devient l'esclave d'un juif, Eved Knaani d'un juif, il doit faire la mila, il doit se tremper au mikvé, et dorénavant, il aura l'obligation de faire toutes les mitzvot que les femmes ont l'obligation.
Donc pas les téfilines.
Pas les téfilines.
Mais est-ce que les femmes elles doivent ne pas mettre les téfilines?
Les femmes?
C'est pas cerné. Hein.
J'ai pas compris.
C'est pas cerné que les femmes ne doivent pas mettre.
J'ai pas dit ça.
Oui, donc on ne sait pas s'il lui, est-ce qu'il doit mettre les téfilines ou pas.
Il n'y a pas l'obligation de mettre les téfilines.
D'accord.
Bon, on va pas chercher les embrouilles.
Mais il pourrait.
S'il veut, il peut, oui.
Ouais, mais dans les téfilines, c'est.
C'est la première fois que j'entends.
Les filles de Rachid mettaient les téfilines, oui. Par exemple. Bon. On parle d'obligation maintenant.
Pas d'obligation.
Je n'ai pas compris.
Non, mais c'est-à-dire si on le voit mettre les téfilines.
Donc, Eved Knaani, non,
pas du tout. Il y a deux types de Eved non juifs ou un seul?
Pour l'instant, il y en a un seul. Eved Knaani.
Eved
On parle pas du Guir Toshav.
Eved Knaani. Eved tout court ou Eved Knaani, c'est la même chose.
La même chose.
D'accord. Eved Knaani, Nikne Bekesef. Donc un esclave, Kenaani, cananéen, donc c'est-à-dire un esclave non juif, nikne bekesef. Donc pareil, on prend le même style de Mishnah que le Mishnah d'avant, on nous explique comment il se fait acquérir, cet esclave-là, et comment il reprend son acquisition, entre guillemets, c'est-à-dire comment il reprend sa liberté. D'accord ? Donc, Evet Knani Nikne Bekesef, un serviteur, un esclave Knani, il peut se faire acquérir. Bekesef, avec de l'argent. Comment avec de l'argent ? Alors, dans ce cas-là, avec de l'argent, ça peut être par exemple que, Monsieur Bispu, vous avez un esclave déjà, d'accord ? Et moi, je vous l'achète. Ça se faisait ? Vous avez un esclave qui travaille pour vous, et moi, je vous l'achète. Je te paye 10 000 euros, tu me donnes ton esclave. Ça s'appelle Nikne Bekesef. On l'acquiert avec de l'argent.
Au marché.
Ou bien au Bishtar, ou bien avec un contrat. Un contrat, ça veut dire c'est la même chose, ça veut dire avec un contrat dans lequel on détermine que ou bien le serviteur signe sur un papier qui dit voilà je signe que je me suis vendu à un tel, ça c'est un premier cas de figure. Ou bien deuxième cas de figure, c'est que Monsieur Bismuth, qui avait déjà un esclave, me fait un contrat dans lequel il dit j'ai donné mon esclave à Mendy Asrulin.
J'ai vendu.
Ça peut être donné ou vendre. D'accord. Ou bien, troisième méthode, c'est Bachazaka. Bachazaka, c'est quoi? Bachazaka, ça veut dire avec une présomption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on n'a pas de contrat et pas d'argent, troisième méthode d'acquisition, c'est Bachazaka. Chazaka, ça veut dire que... Comment il traduit ici Chazaka? Je suis curieux. Je vous explique, c'est une prise de possession.
Une prise de possession.
Non, pas du tout. Prise de possession, ça veut dire comme ça. Le concept de Chazaka, c'est très important à savoir. La vérité, c'est que...
Attrapez-moi ce panneau.
La vérité, c'est que le concept de Chazaka, on va le développer vraiment dans la Gemara Baba Kama. Ici, on ne va pas tellement parler de Chazaka. Le concept de Chazaka, ça veut dire que quand... Je vais vous donner un exemple dans un champ. D'accord ? Il y a pareil, pour acquérir un champ, il y a trois méthodes pour acquérir un champ. Première méthode pour acquérir un champ, c'est avec de l'argent. Donc je paye. Deuxième méthode, il faut des méthodes d'acquisition dans la Torah. Il y a des méthodes comment je peux acquérir un champ. Donc, ou bien en donnant de l'argent. Je donne de l'argent à quelqu'un. Donc par ça, méthode d'acquisition. Deuxième méthode, par un contrat, comme ici. Troisième méthode, c'est Chazaka. C'est quoi Chazaka ? Chazaka, c'est prise de possession. Qu'est-ce que je fais par exemple ? Par exemple, je plante. Ou bien, il n'y avait pas de barrière autour du champ, ou bien il y avait une petite barrière, j'en rajoute une nouvelle. Donc je montre par un acte que le champ m'appartient. Prise de possession. Donc la même chose dans l'esclave. Dans l'esclave, c'est la même chose. Donc le contrat, c'est la même chose. L'argent, c'est la même chose. Et c'est quoi prise de possession ?
Il a commencé à travailler pour
prise
toi.
De position, exactement. C'est-à-dire qu'il commence à travailler pour toi. Par exemple, l'esclave va m'habiller, ou bien l'esclave va me laver. À l'époque, c'était à la mode, d'accord ? Les gens, ils allaient, les esclaves, ils allaient dans les hammams, dans les bains, et c'était l'esclave qui le frottait. Et chacun avait son esclave qui le frottait. C'est comme ça.
Excuse-moi, mais comment tu sais qu'il n'appartient pas le champ ou l'esclave à quelqu'un d'autre avant ? Tu dis, il y a une petite barrière, j'en mets une grande.
Oui.
C'est possible.
Bien sûr, vous avez raison, c'est possible. Dans la Torah, c'est ce que je vais expliquer. Dans la Torah, à part le fait que je dois payer ou on doit me donner le champ et tout ce que vous voulez, il faut une méthode d'acquisition, c'est une procédure.
Qui peut être, pardon ?
Bien sûr. La procédure vient seulement pour confirmer une action qui s'est déjà passée.
D'accord.
Vous comprenez ? C'est une procédure. Comment ça se passe ? C'est comme si le tribunal, aujourd'hui, le tribunal décide quelque chose. Après, il faut une procédure. Il faut passer par un greffier, c'est une procédure. Dans la Torah, on a trois procédures. Kesef, Shtar, Chazaka. L'argent, le fait de payer, c'est une procédure déjà. Le fait que tu payes, c'est déjà une procédure. Deuxième méthode, c'est le contrat. Et troisième méthode, c'est Chazaka, c'est la prise de possession.
C'est pas vraiment une procédure. C'est plutôt un acte.
C'est un acte qui montre que tu prends possession.
Avec la différence, c'est que les deux premières, tu as quelqu'un devant toi, la troisième, tu es seul.
L'argent
ou le contrat, tu as un vendeur. Mais
exact.
La troisième, tu n'as personne.
Oui.
Tu décides de toi-même.
Mm-hmm.
Et ça pose problème.
Alors, je vous montrerai aussi un autre cas dans lequel Chazaka, ça peut servir. De manière générale, dans Chazaka, on demande 3 ans. J'explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, moi, par exemple, imaginez-vous que j'ai un esclave qui travaille pour moi. Et pendant 3 ans, tout le monde l'a vu, comment l'esclave s'occupait de moi. Au bout de 3 ans, il y en a qui disent c'est 2, mais bon. Au bout de 3 ans, il y a quelqu'un qui va me voir et qui me dit, cet esclave m'appartient. Alors, je lui dis, mais non, tu me l'as vendu, cet esclave.
3, 6, 9,
il me sort un contrat daté d'il y a 5 ans, dans lequel il me dit, voilà mon contrat, j'ai acheté l'esclave. Voilà, il arrive au Bedin, j'ai acheté l'esclave, c'est à moi cet esclave. J'ai la preuve. Contrat validé par le Bedin. Alors, moi je dis, c'est vrai que toi tu l'as acheté à 5 ans, mais tu me l'as vendu il y a 3 ans. Et qu'est-ce que j'ai comme preuve ? J'ai comme preuve le fait que Chazaka,
Il bosse depuis 3 ans.
Il bosse depuis 3 ans pour moi. Dans la Torah, d'accord, la prise de possession, c'est une preuve. Non seulement c'est une procédure, pour répondre à la question de David, non seulement c'est une procédure, mais c'est également une preuve. Ça veut dire qu'on peut utiliser ça en tant que preuve. Si maintenant quelqu'un vient me voir et me dit, qu'est-ce que tu fais dans ce champ-là? J'ai un contrat, ça fait 5 ans que je l'ai acheté. Si je lui dis, monsieur, ça fait 3 ans que je bosse, et tu n'as jamais rien dit, 3 ans que je bosse, tu n'as jamais rien dit ici, eh ben, ça veut dire que c'est à moi. Même sans contrat, sans rien. Exactement. Et je me l'approprie. Alors bien entendu, après, dans la Gemara, oui, dans la Gemara Baba Batra, dans le troisième pérec de la Gemara Baba Batra, là-bas, la Gemara explique que, attention, le chiffre 3, alors quand on dit 3 ans, il faut prendre ça avec des pincettes, parce que des fois, vous pouvez avoir une personne qui est partie en voyage. Partie en voyage, à l'époque, ça prenait longtemps, il part en voyage, et il sait que son voyage va prendre 5 ans. Tout le monde sait qu'il est parti en voyage pour 5 ans. Et entre-temps, il y a un noir qui vient et qui...
La moi, ça.
Je vois le nom.
Je le prends.
Et qui prend sa maison. Combien qu'on a comme ça aujourd'hui? Des gens qui partent, c'est-à-dire qu'ils vont en Israël, ils reviennent, et des gens qui ont habité leur maison, ils ont mis les odeurs et tout ce qui va avec. D'accord?
Il rentre à l'hôpital, il sort, la maison l'a occupée.
D'accord?
Oui, les odeurs.
Mais dans le mode d'acquisition du contrat, il y a...
Non, alors voilà, encore une fois.
Il y a aussi un mode d'argent dedans ou pas?
Ça peut être avec ou sans argent, ça peut être un cadeau.
Oui.
Une donation.
Donation,
si vous
voulez. 3 ans, parce que 3, c'est pas Zaka, un triple lien et tout et tout.
Oui.
Voilà, d'accord.
Il y en a qui pensent c'est 2, Rabbi Yehuda, il pense c'est 2. Donc, Evet Nani, Niknebe Kesef, ou Vishta, ou Bachazaka. Le Evet Nani se fait acquérir par les trois méthodes qu'on a dit. Vekone et Tetmo. Et il reprend sa liberté, donc il reprend littéralement, il reprend sa possession.
Il s'acquiert lui-même.
Bekesef, Alida Kherim. Par deux méthodes. Première méthode, c'est Bekesef, Alida Kherim. Par de l'argent, par des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une autre personne va payer de l'argent à son maître, pour le libérer. Parce qu'il faut savoir quelque chose de très important. À l'encontre du... Donc, ce n'est pas la même chose que l'esclave juif. L'esclave juif, on a expliqué que dans certains cas, peut hériter, il peut gagner de l'argent. Il a sa petite vie, exactement. C'est-à-dire qu'il peut, être esclave et tout d'un coup, il reçoit un gros héritage. Donc là, dans ce cas-là, l'esclave peut dire, avec cet héritage, je veux me racheter. Il peut. L'esclave knani, ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que Kol ma shekana evet,
discrimination.
Kol ma shekana evet, kanarabo. Tout ce qu'un esclave a acquéri, c'est pour son maître. Donc si l'esclave a reçu un héritage, c'est pour son maître. Donc là, la seule manière de se faire racheter, c'est quoi? C'est par de l'argent, mais à l'idée acquérir par d'autres personnes. C'est-à-dire que M. Bismuth est un esclave, et moi je paye M. Bismuth, je lui dis, il me fait de la peine ton esclave, tiens, je te donne.
Non, mais attention, là il y a écrit qu'il doit se racheter lui-même.
Non, mais Kesef Alid Akhiri.
Oui, mais lui-même.
Par de l'argent, allez, non.
Parce que sans ça, on l'a déjà dit, il peut être revendu à quelqu'un d'autre.
Non, connaît, il reprend sa liberté.
Voilà.
Mais Kesef Alid Akhiri. C'est-à-dire que d'autres personnes ont donné de l'argent au maître.
Pour la franchise.
Moi, je donne de l'argent à M. Bismuth, je dis voilà, je te donne de l'argent, laisse libère tranquille le. Ton serviteur, libère-lui. Là, c'est beau, c'est
ça. Ça arrive, ça? Que toi, tu vas donner de l'argent à M. Bismuth pour dire
laisse le Gary Cooper et tout et tout, les anciens.
Techniquement, c'est possible. D'accord.
Voilà,
mais attention, d'accord, attention, si maintenant, moi je donne de l'argent à votre serviteur, M. Bismuth, et je lui dis, tiens, donne cet argent-là à ton maître qui te libère, voilà.
Fais-moi le pognon.
Et bien là, dans ce cas-là, ça vaut rien. Ah oui. Tout ce que l'esclave a pris possession, tout ce que l'esclave a acquéri, directement, ça passe à son maître.
L'esclave, tu deviens son maître.
Ça dépend. Si moi j'ai donné l'argent à M. Bismuth pour qu'il laisse l'esclave en liberté, ben l'esclave n'est pas en liberté. C'est ça qu'on est en train de dire.
On a dans les prophéties.
Sinon, on rentre dans un cas d'achat. Il ne le rachète pas, non.
On a dans le Nar, je crois, il y a les prophètes qui disent qu'Hachem, il dit, j'ai payé pour que vous soyez libéré.
Oui, exact.
Et ils ont gardé l'argent, ils n'ont pas libéré. Aïe.
Est-ce que les enfants, ça rentre dans tout ce que possède l'esclave? Les enfants de l'esclave sont automatiquement esclaves ou on leur donne une chance?
Non, les enfants, c'est un autre statut.
Les enfants, c'est un autre statut.
Les enfants, en premier temps, oui. Pour répondre rapidement aux questions, en premier temps, oui, mais après, ils ont une manière de se libérer.
D'accord.
Donc, divrei Rabbi Meir. Ou bishtar al ida atmo. Donc, deux méthodes. Par deux méthodes, il peut reprendre sa liberté. Ou bien, par de l'argent. Ça, c'est comme je viens d'expliquer. C'est-à-dire que moi, je paye M. Bismuth pour qu'il libère son serviteur. Très bien. Deuxième méthode, ou bishtar al ida atmo. Ou bien par un contrat. Donc là, dans ce cas-là, c'est M. Bishmut vous-même qui lui écrivez un contrat. Donc là, c'est-à-dire deux procédures possibles. Première procédure possible, c'est que je paye de l'argent à M. Bishmut pour qu'il y perde son serviteur. Deuxième procédure possible, c'est Bishtar et Asmo, M. Bishmut écrit un contrat à son serviteur dans lequel il lui dit tu es libéré. Ça veut dire que s'il lui dit tu es libéré tout court sans contrat, ça vaut rien. Il faut une procédure. C'est quoi la procédure? Les deux procédures que je viens de dire ici. D'accord? Par de l'argent ou par un contrat. Divré Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Mamri, Rabbi Meir dit non. Rabbi Meir dit c'est le contraire. Le contraire de ce que je viens de dire ici. Alors Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Meir pense deux choses avant de passer à Rabbi Meir. Rabbi Meir pense deux choses. Il pense que ce que je vous ai expliqué, c'est qu'un serviteur ne peut pas acquérir de l'argent sans son maître. Donc c'est pour ça que l'argent est obligé de passer par une tierce personne, ce que j'ai expliqué. Et deuxième chose qu'il pense Rabbi Meir, c'est que on est obligé de donner un contrat au serviteur pour le libérer. Ça veut dire que le serviteur a l'obligation d'être là, de lui donner un contrat dans la main. Ça veut dire comme ça.
C'est ce qu'on vient de dire, non?
Non. Mais pourquoi Rabbi Meir il pense ça? C'est important d'expliquer ça. Car c'est la Gemara qui explique. Si maintenant, M. Bishmut, Baruch HaShem, vous avez plein d'esclaves. Hein? Je sais pas ce qu'il veut dire Baruch HaShem aujourd'hui.
Je sais pas ce qu'il veut chez toi, mais...
Il m'enrichit, attends.
Il m'enrichit, c'est des brachot.
Mais n'oubliez pas que la terminologie d'esclave, c'est pas comme vous avez vu dans notre jeunesse, quand on regardait des films avec les types qu'on souhaite à longueur de... C'est pas ça, hein.
Très très loin de ça.
C'est l'esclave en cours.
On a des kilomètres. Le mot esclave, parce qu'il y a écrit Avet, c'est un travailleur en vérité.
C'est majeur
d'un employé. Avet, c'est un employé. Il faut savoir quelque chose. Monsieur, il faut savoir quelque chose. Quand on arrive, quand on n'a pas assez à manger, on n'a à manger que pour un repas, il y a ou pour moi ou pour mon serviteur. Qu'est-ce que je dois donner? À mon serviteur. Quand on arrive dans un hôtel, il n'y a qu'un lit pour dormir. Rien qui doit dormir par terre. Qui c'est qui doit dormir par terre?
Le maître.
Ah oui.
Ah bon?
Bien sûr.
On aurait dû leur montrer. On aurait dû leur
montrer. Droit romain.
Esclave, c'est
oui.
Pas le terme pour un
évêque. Bien sûr.
Oui, je sais pas.
David, je
vais pas terminer.
Je vais essayer de dormir dans le couloir.
Toutes les catégories.
Attendez.
Alors attendez.
Donc ça enregistre ça?
Bien sûr.
Arrêtez. Moi, j'écoute ça là-bas. S'il y a des Africains, vous croyez? Mais tout à l'heure, je plaisante.
Il a le droit de plaisanter, donc je... Ils ne comprennent pas la plaisanterie, vos amis.
Excuse-toi.
Alors, tant pis pour les âmes de couleur.
Arrête, tu te droit. C'est rien, hein. Mohamed, c'est rien du tout, quoi si.
Dédicace.
Alors, on mettra bon. Pas la couleur, on mettra la couleur noire et blanc.
Ou Bishtar, c'est aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Ou Bishtar a l'aider à ce mot. Très bien. Deuxième chose qu'on a dit, c'est quoi? Donc si M. Bishmut, il dit à distance, le serviteur n'est pas là, il dit je libère mon serviteur. Ça marche pas.
Je t'ai bien
Pourquoi ça marche pas? Parce qu'on a un principe qui dit comme ça. Yizachin le Adam shelo befanav, ve'en chavin le Adam shelo befanav. On peut faire mériter quelqu'un. On peut faire bénéficier quelqu'un. Shelo befanav, quand il n'est pas là. Mais ve'en chavin le Adam shelo befanav, on ne peut pas faire quelque chose qui va en l'encontre de la volonté de la personne quand la personne n'est pas là. C'est un principe qu'on a dans la Torah. C'est comme ça. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que par exemple, disons que si j'ai une maison, je peux dire, même si M. Bishmut n'est pas là, c'est moi qui lui donne, je peux lui dire, je donne ma maison à M. Bishmut. Même si M. Bishmut n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on considère que acquérir une maison, c'est un mérite ou c'est un bien ou un mal. C'est un bien. Donc puisque c'est un bien, même s'il n'est pas là, je peux lui donner. Par contre, d'accord, si c'est une galère que je veux donner à M. Bishmut, ça s'appelle un chov, là dans ce cas-là, on dit, tant qu'il n'est pas devant toi, la procédure vaut zéro. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? Rabbi Meir pense que pour le serviteur, le fait de se faire libérer, c'est considéré non pas comme un bien, mais comme un mal.
Bien sûr.
Pourquoi? Dites-le pourquoi.
Ben parce qu'il a le logé, le nourri sûr.
Parce qu'il était nourri, logé sûr.
Bien sûr.
D'accord. Surtout quand je vais expliquer ces principes-là, on voit qu'il ne souffrait pas tellement le serviteur. Donc Rabbi Meir considère que c'est un chov. C'est une galère pour le serviteur d'être libéré. Donc puisque c'est une galère, il faut que la procédure ne peut être faite qu'en présence du serviteur. Si on n'est pas en présence du serviteur, on est à distance, je dis à distance, je libère mon serviteur, ça vaut rien. Parce que c'est un chov, ça va contre la volonté du serviteur, on considère que ça va contre la volonté du serviteur, et on ne peut pas le faire quand on n'est pas devant lui. Ça c'est donc le premier avis qui est Rabbi Meir. Je conclue la Mishnah, Vachachamim Amrim, Chachamim Idiz, Bekesef Alidei Atzmo,
ou Vishtar. Il a le droit de refuser, si jamais, même s'il est là, que ça va changer quoi?
Il peut refuser, oui, peut-être je prends pas ma liberté. Ah oui. La seule chose, ou bien, d'accord, si c'était fait à distance, il peut refuser. Si c'était fait à distance, ça veut dire que je dis, je libère mon serviteur, mais mon serviteur, il est maintenant à Lyon. Là, dans ce cas-là, selon Rabbi Meir, ça marche pas. Mais si le serviteur est devant moi, je lui dis, monsieur, dehors, eh ben, monsieur, dehors. C'est fini, je l'ai viré. Mais il faut qu'il soit devant moi. Puisqu'on a un principe qu'on ne peut faire du mal à quelqu'un, du tort à quelqu'un, que devant lui, pas à distance. Très bien. Bah, Chachamim Omrim, Chachamim, ils disent le contraire. Ils disent non. Bekesef al-Ide Atmo, le contraire de ce qu'on a dit. Ils disent que Bekesef al-Ide Atmo, par de l'argent, il peut se faire acheter par lui-même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que selon Rabbi Meir, le serviteur peut acquérir de l'argent sans que son maître mette la main dessus. Il y a des conditions, mais c'est possible. Par exemple, c'est si quelqu'un il donne l'argent à un serviteur, voilà, M. Bismuth, toujours vous, hein, vous avez un serviteur, je donne l'argent à votre serviteur, je dis, mais je te donne de l'argent à condition que ton maître ne peut pas prendre possession de cet argent. Qu'est-ce qui se passe là?
Ouais, à condition, moi d'abord je suis d'accord. Est-ce que je suis d'abord au courant que mon serviteur il a
voilà,
de l'argent?
Moi je donne de l'argent, je dis à condition
à
que...
À qui?
Je donne l'argent à votre serviteur dans les mains.
D'accord, mais je suis là, moi.
Je dis à condition que ton maître ne prend pas
possession. D'accord, mais est-ce que moi je suis là? Moi je peux très bien dire, ah non, là ce qui appartient à mon serviteur, c'est à moi.
Là ou pas là? Vous êtes là, disons que vous
alors,
êtes là. Alors,
eh ben, si je suis d'accord moi-même.
C'est Marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Meir, il a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Il a dit tout ce qu'un serviteur a acquéri, son maître a acquéri. Rachamim, ils ne sont pas d'accord. Rachamim, ils disent non. Il dit, il y a certains cas dans lesquels un serviteur peut acquérir quelque chose sans que son maître mette la main dessus. Donc, Bekesef al-Ide Atmo. Donc, eux, ils disent, Rachamim, ils disent, le serviteur a un moyen de se libérer soi-même, sans passer par une autre personne, avec de l'argent. Parce que j'ai expliqué que c'est possible. Ou Bishtar al-Ide Akhirin. Et quand c'est par un contrat, là, dans ce cas-là, al-Ide Akhirin. Rachamim, il pense quelque chose d'intéressant. Donc, il pense exactement le contraire de ce que j'ai lu tout à l'heure. Premièrement, il pense que, il y a une manière d'acquérir, même s'il y a une manière d'acquérir, un serviteur a une manière d'acquérir de l'argent, sans que son maître mette la main dessus, premièrement. Deuxièmement, Chachamim pense que le fait qu'un serviteur soit libéré, c'est un mérite pour lui. C'est pas un mal pour lui. Donc puisque c'est un mérite, ça peut être fait à distance aussi. Vous vous rappelez ce que j'ai expliqué? Que si c'est un mérite, ça peut être fait à distance. Mais si c'est pas un mérite, ça peut être fait que devant la personne. C'est comme ça.
Ça c'est Rabbi Meir.
Qu'est-ce qu'il pense Chachamim? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il pense Chachamim? Chachamim pense le contraire. Il pense que non, c'est un mérite pour lui. Donc puisque c'est un mérite, je peux ou bien moi lui donner le contrat dans la main, au serviteur, ou bien je peux demander à quelqu'un d'autre de lui donner le contrat. Ça sera valable aussi, bien que c'est à distance. Pourquoi? Puisque c'est un mérite, et un mérite peut être fait à distance. Voilà, ça reste ici pour aujourd'hui.